Bon matin, frères et sœurs. Ça fait déjà 3 semaines qu'on ne s'est pas vus, hein? Qu'on ne s'est pas rencontrés un dimanche. Ça passe vite. Mais j'avais hâte, là. Je ne sais pas si vous aviez hâte. Ça fait que vous avez un petit peu en arrière, vous voyez le repas du Seigneur. Vous vous souvenez, je vous avais encouragé peut-être à préparer une lecture aujourd'hui. Puis j'ai dit, bien, je pense que c'est le bon temps. On débute l'année, le repas du Seigneur, bien, c'est un temps vraiment précieux. On va regarder un petit peu ce matin pourquoi vraiment que peut-être il est plus précieux qu'on pense. Hein? Puis l'idée un peu dans tout ça, c'est de toujours nous aider à... Vous savez, c'est dur de ne pas vivre la routine. Hein, demain matin, Laurence, tu vas te relever. Non, tu ne travailles pas demain, c'est ta maman. Mais je dirais, on a une routine de vie. Puis même dans notre vie avec le Seigneur, des fois, bien malheureusement, la routine peut s'installer. Puis quoi de mieux que de revenir à la base? Dans le fond, ce qui nous a rapprochés de Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ. Ça fait qu'on a besoin là, de refocuser sur ces choses, puis ensemble de s'encourager pour continuer notre marche avec lui, redécouvrir son amour qu'il a pour nous, sa grâce, sa miséricorde, sa justice qui est présente, tout son être en fait. Ça fait que ce matin, bien, on va regarder des petites affaires qui vont nous encourager à ça. Puis si vous avez une lecture à faire, l'idée, c'est pas d'exposer le passage, c'est juste de dire... Ah, ce passage-là, il me touche dans ma vie par rapport justement à la personne du Seigneur Jésus, son œuvre à la croix, et puis juste de le lire pour qu'on l'entende. Puis, donc, un peu tout notre temps va être, on va consacrer tout notre temps ce matin au repas du Seigneur. Puis à la fin, bien sûr, bien, on prendra le pain et la coupe. La semaine dernière, bien, c'est ça, j'étais avec Linda, c'est sûr. Elle vous salue ce matin, là, elle a pogné la COVID, ça fait que, mais là, elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est la fin, tout ça, mais bon, on comprend que ceux qui l'ont eu, elle a eu beaucoup, beaucoup de fatigue, là, ça fait qu'à matin, elle préférait rester un peu pour profiter de sa dernière journée avant de redébuter demain, ça fait qu'elle vous salue. Ça fait que la semaine passée, on écoutait une émission, puis c'était des pompiers. Je ne sais pas, là, si moi, en tant que comme garçon, quand j'étais jeune, c'est sûr, les pompiers, hein, c'était quelqu'un ou c'était des gens là, qui étaient attirants parce qu'ils faisaient quelque chose là, de vraiment spécial, de dangereux même. Hein, rentrer dans des maisons en feu, c'est quelque chose. À chaque fois, ils risquent leur vie. Puis j'écoutais ça, puis malheureusement, bien, dans l'émission, c'est sûr, un des pompiers est décédé dans son travail. Fait que c'est sûr que c'est attristant de voir ça. Puis... ce que j'aimais un peu de ça aussi, c'est la communauté des pompiers. Le fait comment ils sont soudés. C'est ça, une famille. Hein? Puis c'est sûr, on voyait ces gens-là très, très touchés par le décès de cette personne. Puis c'est sûr que dans où ils travaillent dans leur poste de pompier, bien, ils ont comme un endroit, là, pour ceux qui suivent le sport un peu, des fois, on voit ça dans des stades ou même dans des arénas, quand les athlètes embarquent sur les terrains ou sur la patinoire ou quoi que ce soit, dans le passage qui passe, il y a des photos d'anciens joueurs. Ça fait qu'ils ont dans la caserne un endroit où il y a un corridor, puis il y a des photos de gens qui, malheureusement, des pompiers qui sont décédés. Ça fait qu'il y a des photos de ces personnes-là. Puis là, bien, on voit les pompiers passer, puis justement, c'est sûr, hein, dans ce groupe de pompiers-là, il y en avait un qui était très ami avec cet homme-là qui était décédé. C'est que là, il a arrêté où la photo, puis il y a toujours un directeur de la caserne, tout ça, là, qui dirige tout ça. Ça fait qu'il était avec lui, puis là, il regardait la photo, puis il dit, nous autres, mais qu'on parte, mais qu'on soit plus là. Ils vont-tu se souvenir de nous? Hein? Puis je sais que Brian nous partageait un peu dans son travail aussi l'autre fois. Ça fait un certain temps, tu nous partageais, Brian, que c'est ça, tu sais, toi aussi, là, tu vieillis, hein, puis là, tu arrives, puis des fois, ben, tu te demandes toi aussi quand tu vas partir, tu vas aller à l'hôpital, Docteur Mathieu, on ne se souvient pas de lui. Comme chacun de nous, hein, peut-être Alain, toi aussi, là, anciennement à l'usine, beaucoup de nouvelles personnes. Peut-être qu'il reste quelques personnes qui te connaissent, peut-être qu'il n'en reste plus. Hein. On est tous comme ça, je veux dire, hein, c'est tout, quelque part, on va être oublié. Puis cette personne-là, bien, elle disait ça, elle dit, qui va se souvenir de nous? Qui va se souvenir de nous? Prions. Seigneur, bien, ce matin, tu nous invites à se tourner de tout notre être vers toi, et on veut considérer la personne de ton Fils bien-aimé, la personne de Jésus-Christ. Permets-nous encore, Seigneur, de voir toute ta beauté ce matin, toute ta majesté, toute la gloire de notre Sauveur, pour que nos cœurs puissent être attirés vers lui puissamment, au travers de sa grâce et de son amour. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, l'idée d'être oublié ou tout ça, et puis, vous savez, bien, le Seigneur, un peu quand on regarde les Écritures, puis le repas du Seigneur, bien, il nous invite justement à se souvenir. On retrouve dans 1 Corinthiens 11, 23, 26, ces passages suivants. Ça dit, bien, au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et au verset 26, bien, ça nous dit ceci, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On connaît bien ces passages-là, et puis ce matin, bien, ces passages-là nous invitent justement à ce qu'on veut faire, à se souvenir, à faire en mémoire, en prenant le pain et la coupe, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Et c'est sûr qu'en regardant le texte un peu, c'est ça, le mot « mémoire » m'a attiré. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit pour vous quand le Seigneur dit ça, « Faites ceci en mémoire de moi ». Parce que, bon, il y a plusieurs façons de se rappeler quelqu'un, si on peut dire. C'est sûr qu'au 27-26, quand même, il le dit, hein? « Car », donc ça a un lien avec ce qu'on vient de lire, il dit bien, « Car chaque fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, bien, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, ce matin, en prenant le pain et la coupe, bien, on va proclamer cette mort-là. Et puis, ce n'est pas une mort comme justement un de ces pompiers-là qui, lui, est décédé. Hein, c'est une mort où ce que Jésus-Christ, dans le fond, n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il vit aujourd'hui. Et le repas du Seigneur, quand je regarde ça, pour moi, un peu, bien, c'est une façon justement de, pas dans le sens qu'on veut oublier, mais on veut justement focusser sur la personne de Jésus-Christ. Puis je regardais le mot « mémoire » un peu, comme je dis, je ne suis pas un expert du grec, je ne connais rien là-dedans, mais il y a des gens qui le connaissent. Savez-vous, le mot « mémoire », c'est quoi en grec? J'ai resté surpris. En dehors de mémoire, on sait un peu c'est quoi ça veut dire, non? Mais c'est le mot « anamnésis ». En français, je sais qu'il y a des personnes ici qui vont savoir ce que ça veut dire « anamnèse hein? ». Puis Laurence, puis Brian, puis moi, dans notre travail, on utilise ce mot-là d'une manière pratique. L'anamnèse, dans le fond, c'est quoi? Quand on va voir quelqu'un, mettons, bien, quelqu'un vient me voir, qu'est-ce que je fais? Bien, je m'assois avec. Ça fait que là, bien, je regarde à son histoire. Pourquoi qu'il est ici? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand? Ça fait-tu mal? C'est quoi sur 10 sa douleur? Est-ce que la nuit il est réveillé? C'est quoi sa santé en général? Il prend-tu des médicaments? Il a-tu été opéré? C'est quoi son histoire? Il a-tu une histoire de cancer à travers tout ça? Donc, c'est tout le pédigree de la personne. Puis quand j'ai lu ça, je disais, « Wow, Seigneur, c'est le fun! » C'est sûr, il dit, « Bon oui, Quand on prend le pain et la coupe, bien sûr, on proclame sa mort. Mais quand on regarde la mort de Jésus-Christ, en fait, c'est le plan rédempteur de Dieu pour nous. Ça commence dans l'éternité passée, puis d'une certaine façon, ça se poursuit encore. Ça se poursuit encore aujourd'hui, puis ça va se poursuivre. Puis c'est rattaché à une personne. Quand on regarde cette personne-là, là, on regarde son histoire. Quand on prend le repas du Seigneur, bien, dans le fond, quand on prend le pain et la coupe, d'une certaine façon, bien, on regarde à l'histoire, cette histoire-là qui nous était apportée en la personne de Jésus-Christ. Je trouvais ça beau. Hein, des fois, on est comme Dieu, bon, on prend le pain et la coupe, on sait que, bon, le pain, ça représente son corps qui a été livré, puis son sang qui a coulé. Mais ça, c'est une partie, là, mais si on détaille tout ça, là, c'est vaste. Puis on sait que chacun de nous qui connaît le Seigneur aujourd'hui ici, bien c'est parce que le Seigneur nous a amenés à la croix. Hein. On a vu notre péché, on a vu notre état, on a vu notre séparation avec Dieu. Puis on a vu qu'il y avait une solution qui avait été apportée. On s'est repenti de nos péchés, on s'est tourné vers l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Il nous a accueillis dans sa famille. Et quand on revient à ça, bien, on revient à la source, dans le fond, de qui nous sommes aujourd'hui. Mais en considérant l'œuvre de Jésus-Christ, en considérant sa personne. C'est qui Jésus-Christ, en fait? L'autre fois, je lisais, puis j'ai dit, c'est bien trop vrai, puis on le sait, hein? On parle à quelqu'un du Seigneur Jésus-Christ. Nous, des fois, le danger, c'est qu'on connaît ça, on va dire. Ça fait qu'on utilise des mots, on dit ça à la personne, mais la personne, elle, ça ne dit rien pantoute. Puis, dans le fond, je me disais, quand on veut parler du Seigneur à quelqu'un, il faut lui raconter son histoire. Il faut lui donner les bases de à quoi qu'il peut comprendre, parce que souvent, il ne comprend rien. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, puis quand on y parle, on arrive, ben, tu sais, tu es dans tes péchés, puis c'est l'agneau de Dieu, puis, je veux dire, il n'y a rien à rattacher à ça. Ça fait que nous, ce matin aussi, bien, ça nous permet de revisiter tout ça. Pas dans le sens nécessairement qu'on l'a oublié, mais comme je dis souvent, le danger, bien, c'est ça, c'est une routine. Hein, le dimanche, on vient, il y a une forme de routine. C'est dur de s'enlever de la routine parce que la routine, ça aide aussi dans nos vies. Donc, je me disais, bien, recommencer l'année, bien, je pense que de prendre notre temps pour le repas du Seigneur, puis, c'est ça. Juste lire un passage, j'espère que vous en avez. Je compte un peu sur vous aussi, parce que je ne vais pas prendre tout le temps pour ça, pour justement faire l'anamnèse du Seigneur, prendre des points dans l'anamnèse, dans le dossier. Des fois, je regarde ça, là, un patient appelle, là, il nomme son nom, je dis, « Es-tu déjà venu à la clinique? » Il dit, « Oui, ça ne me dit rien. » Là, je prends son dossier, je lis son dossier, « Ah, je sais c'est qui. » Je n'ai peut-être même pas le visage, je ne suis pas sûr de son visage, mais je sais c'est qui. Ça fait que nous, ce matin, le Seigneur nous invite à ça, à se souvenir de lui, mais dans toute cette belle dimension, toute cette grandeur de ce qu'il est, de ce qu'il a accompli, ce plan rédempteur. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, justement, pour revenir, revisiter aussi notre foi en lui, à nous redonner de la joie, redécouvrir la grâce de Dieu, son pardon pour nous, nous donner de l'espoir encore, de l'espérance, à marcher dans ses voies, à continuer. Ça fait que je me dis, c'était vraiment un bon temps, on débute l'année, puis on va faire ça. Et peut-être pour lire, bien, j'aimerais juste pour moi, de mon côté, bien, comme on dit, on peut lire plusieurs choses qui nous rattachent justement à cette œuvre de Jésus-Christ, à sa personne. Puis c'est sûr que je vous dirais, un des épîtres favoris pour moi du Nouveau Testament, c'est l'épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce que Il parle de l'Ancien Testament, hein? Il parle de l'Ancienne Alliance. Il parle des sacrificateurs, des offrandes qui étaient faites, des sacrifices qui étaient faits. Puis là, bien, il vient mettre Jésus dans ça. Qu'est-ce que Jésus vient faire dans ça? Qu'est-ce qui change de ça? Puis je me dis, bien, quand on lit l'Épître aux Hébreux, quelque part, on a un gros aperçu de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, puis la Nouvelle Alliance qui est rajoutée dans ça. Puis la personne de Jésus-Christ, bien, quand on lit Hébreux, c'est sûr, est élevée au plus haut point. Ça fait qu'une des choses qui me fascine dans la personne de Jésus-Christ, bien, on le retrouve, là, disons, au verset, au chapitre 4 d'Hébreux, si vous êtes là. Donc, c'est des versets qu'on connaît, puis c'est pas que je veux détailler nécessairement les versets, je veux faire ressortir un élément de la personne de Jésus-Christ, puis on va lire quelques autres petits versets un peu qui vont nous parler de ce point-là, de la personne de Jésus-Christ, et puis qui vient mettre en valeur sa personne et en même temps aussi ce qu'il a accompli pour chacun de nous qui le connaissons. Au verset 14, ça dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et le mot, en tout cas, l'élément ici de la personne du Seigneur que je veux faire ressortir, bien, je pense qu'on le voit tout de suite au verset 14. Il dit « Car nous n'avons pas un grand souverain sacrificateur. » On voit ici le mot « souverain sacrificateur », puis on connaît tout ça. Là, ceux qui connaissent le Seigneur un peu savent de quoi, qui est le souverain sacrificateur. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, bien, c'est sûr, comme je dis, l'Épître aux Hébreux, bien, prend l'Ancienne Alliance, prend ce qui se passait, prend ce que... On sait que le Seigneur, quand on lit l'Ancien Testament, bien, avec Moïse, bien, il avait établi une alliance avec lui, puis dans cette alliance-là, bien, il y avait un temple qui devrait être construit, tout ça, puis dans ce temple-là, bien, il y avait des sacrificateurs qui étaient là, puis il y avait aussi des souverains sacrificateurs. Donc, les souverains sacrificateurs, eux autres, bien, si on regarde au niveau de toutes, on pourrait dire, les fonctions qui devaient être faites au niveau du temple, c'était lui qui avait la plus grande des fonctions. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, une fois par année, devait rentrer dans le lieu très saint, hein? Le Saint des Saints, une fois par année. C'est juste lui qui pouvait rentrer là, personne d'autre. Puis ici, bien, on voit que l'auteur, bien, nous dit que nous avons un grand souverain sacrificateur. Un grand souverain sacrificateur. C'est sûr, cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on sait que sous l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur rentrait une fois par année, il apportait du sang. Puis ce sang-là, bien, faisait que ses péchés... Il les amenait pour lui-même, pour sa famille, puis il amenait aussi pour le peuple. Il faisait ça une fois par année. Hein? Le jour des expiations, quand on regarde dans les Écritures, c'était ce jour-là. Lui, il rentrait là. Dans les Hébreux, ici, dans l'Épître aux Hébreux, bien, l'auteur nous amène, dit « Oui, hey, excellent, il y avait des souverains sacrificateurs, mais là, il y en a un grand, c'est la personne de Jésus-Christ. » Puis, ce qui est intéressant, bien, on voit ici qu'il n'est pas rentré dans un temple fait de main d'homme. Il est rentré même, il a traversé le ciel. Il a traversé le ciel. Il est allé même en la présence de Dieu, avec son propre sang, pour agir comme souverain sacrificateur. Vous savez, un souverain sacrificateur, quand on regarde ça, c'est sûr, Dieu avait demandé qu'un temple soit construit, puis pour permettre à Dieu d'être là avec son peuple. Mais il y avait juste lui, le souverain sacrificateur, qui pouvait aller dans la présence même du Saint des Saints, en apportant le sang. Donc, on voit que le souverain sacrificateur, son rôle, c'était d'agir comme un intermédiaire. D'un côté, il y a les hommes, avec leur imperfection, des êtres qui chutent, qui pêchent, qui font qu'on est, contraire à la personne de Dieu. Ou ce que, de l'autre côté, on a Dieu, justement, qui, lui, est saint, ne pêche pas, n'a jamais péché, ne pêchera jamais, qui est dans un lieu de perfection. Donc, c'est impossible d'unir les deux. Il y a un problème. Le souverain sacrificateur, son rôle, c'était d'unir Dieu et les hommes. Il permettait cette union-là, en apportant le sang, pour rendre Dieu propice à l'homme. Puis on sait que quand on regarde les Écritures, bien, ce sacrifice-là qui se faisait sous l'Ancienne Alliance, bien, c'était du sang d'animaux. Puis on voit que dans les Écritures aussi, c'est marqué que ce sang-là n'enlevait pas les péchés, il ne faisait que couvrir. Donc, c'était à répéter continuellement, année après année. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, lui, bien, il a été dans le Saint des Saints, si on peut dire, il a été dans les cieux même, en présence de Dieu. Puis, si on regarde, regardez, on va lire un petit peu, je vais juste trouver mes petits versets, voir. Si on va dans Hébreux un petit peu plus loin, chapitre 7. Verset 26. Comme je disais, le souverain sacrificateur, dans l'Ancienne Alliance, devait aussi offrir du sang pour lui-même. Au verset 26, ici, ça dit, « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, donc c'est Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Si on fait juste remonter un petit peu plus haut, au verset 24, c'est marqué, « Mais lui, encore en parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc, on comprend que dans l'Ancienne Alliance, bien, les souverains sacrificateurs, tout comme nous, vieillissaient, et puis à un moment donné, bien, ils mouraient. Ça fait qu'ils devaient être remplacés. On voit ici bien que ce grand souverain sacrificateur-là, lui, il demeure éternellement, il possède ce sacerdoce-là, justement, d'être celui qui est venu devant Dieu avec le sang pour permettre une réconciliation, pour permettre un pardon qui est éternel. Au verset 25, ça dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. » Hey, c'est merveilleux, ça. Un souverain sacrificateur vivant, éternellement. Dans son rôle de souverain sacrificateur qui n'est pas transmissible, il n'y a personne d'autre qui ne fait ça, qui ne fera ça. C'est attribué à la personne de Jésus-Christ. Ce souverain sacrificateur qui nous permet justement de faire le pont entre Dieu et les hommes. Si on va un petit peu plus loin encore au chapitre 9, Au verset 6, ça dit « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. » Alors, on parle des sacrificateurs. « Et dans la seconde, donc dans le Saint des Saints, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non pour y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Au verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Hein, » On comprend que le tabernacle, c'était juste je vais essayer de le trouver un petit peu, voir là. C'est sûr, hein, ça avait été construit d'après un modèle que Moïse avait reçu. Dieu lui avait dit, tu feras ça de telle façon. Donc, c'était une illustration du tabernacle qui est dans le ciel. Donc, ici, au verset 11, ça dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que celui qu'il y avait sur la terre, que celui où les souverains sacrificateurs, une fois par an, rentraient. » C'était des hommes, c'était des gens qui eux aussi péchaient, qui avaient besoin d'être pardonnés aussi de leurs fautes. Donc, un tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Un pardon éternel. Le péché était réglé dans le sens que les sacrifices n'avaient plus besoin d'être faits. Lui avait accompli le sacrifice parfait, le sacrifice ultime, qui permettait justement d'être réconcilié, d'être pardonné avec Dieu, non pas juste pour un temps, mais éternellement. Et quand on considère le repas du Seigneur, bien, dans l'histoire, si on peut dire de ça, bien, le souverain sacrificateur en la personne de Christ, bien, il dépeint d'une manière vraiment superbe. J'aimerais juste vous lire pour terminer, puis après ça, bien, si vous avez quelque chose que vous aimeriez nous lire, justement, sur la personne de Jésus-Christ, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait. C'est ça, c'est juste dans 1 Pierre, chapitre 1, parce que là, on vient de voir que le Seigneur Jésus-Christ a amené son propre sang. C'est avec son propre sang qu'il s'est présenté devant Dieu pour rendre le Père propice à nous, en nous pardonnant, nous donnant un pardon éternel. Donc, au verset 18, ça dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Qui par lui croyant en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Hein, des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Je lis ça, puis je me dis, ben gars, l'auteur est en train de nous dire qu'on pourrait prendre toutes ces choses là, qui existent, là, on prendrait tout l'or, l'argent, tout ce qui a une valeur aujourd'hui, là, on prendrait tout ça, on en apporterait ça devant Dieu, puis ça ne serait même pas suffisant. Ça ne pourrait pas régler notre situation. Pourtant, là, c'est quelque chose, là, tout ça. Là, je ne sais pas en argent comment ça ferait. Là. Si on aurait chiffré des biens présents sur la terre aujourd'hui, que ce soit de l'or, de l'argent, tout ce qui est bien, nos maisons, mais tout ça, on présente ça à Dieu pour nos péchés, ça ne fait rien. Là. Sang précieux de Christ qui nous pardonne. On peut voir la valeur de ce sang-là. Comme je dis, prédestiné avant la fondation du monde. Puis ce que j'aime à la fin du verset 20, quand je dis ça, là, je dis merci Seigneur, tout ça, c'est marqué à cause de vous. À cause de nous, aujourd'hui. Quand on va prendre tantôt le pain et la coupe, bien, on va savoir que le Seigneur, il n'a pas fait ça parce qu'il est obligé. Pas fait ça parce qu'on l'a forcé. Il ne s'est pas retrouvé sur une croix non plus parce que ça a donné comme sur l'eau. Il s'est fait arrêter, puis quand il est mort sur une croix, c'est tout. Ça a fini comme ça. Quelque chose qui était prédestiné à cause de nous. Puis moi, ce matin, ça fait du bien d'entendre ça. De donner sa vie pour Jean. D'avoir traversé les cieux avec son propre sang. Pour le présenter au Père, dire, je t'amène ce sang-là pour que Jean Gagné soit pardonné. Puis vous pouvez mettre votre nom, ceux pour qui ce sang-là vous a donné ce pardon-là. Fait que, frères et sœurs, bien, c'est ce que je voulais amener un petit peu sur Jésus, souverain sacrificateur. On pourrait dire d'autres choses. Comme je dis, si vous avez une lecture que vous aimeriez nous faire, juste pour aussi nous, qui va nous ramener dans l'histoire, l'anamnèse du Seigneur Jésus, pour que tantôt, mais qu'on prenne le pain et la coupe, bien, on le fasse dans la reconnaissance et la joie. Puis, bien sûr, bien, il y aura des, peut-être là, William, avais-tu des petits chants aussi, là, possibles, qu'on peut chanter? Ça fait que, frères et sœurs, bien, je vous laisse un petit peu de temps si vous avez quelque chose, vous aimeriez nous lire. Puis après ça, on prendra un temps par la suite, ou ce que, un peu après les chants, s'il y a des chants, bien, on prendra juste un temps si vous voulez louer Dieu, justement. Vous voulez l'adorer, l'exprimer avec votre voix, exprimer ce qui est dans votre cœur, bien, on le fera là. Ça fait que je vous laisse là la parole. Oui.